Suite et quatrième temps d'une semaine que les nouveaux chemins de la connaissance consacrent à la pensée difficile à tous égards, douloureuse et exigeante de la philosophe Simone Veil. Hier mercredi, Bertrand Saint-Cernin est venu vous parler de l'action politique de Simone Veil et nous finirons demain cette semaine en compagnie de Sylvie Courtine-Denamy et Martin Stephens autour de la question de l'enracinement. Mais tout de suite, ce jeudi, c'est de religion qu'il sera question, de Dieu, d'antijudaïsme et peut-être d'antisémitisme, en compagnie de Florence de Lucie qui dirige chez Bayard un ouvrage intitulé Simone Veil, sagesse et grâce violente, et de Dominique Bourrel qui est notamment l'auteur d'une biographie que j'ai plaisir à mentionner, de Moses Mendelssohn, paru chez Gallimard. Bonjour à tous les deux. Bonjour donc et bienvenue sur France Culture. Alors on va parler de la question religieuse chez Simone Veil, question qui est en fait en filigrane dans toute l'œuvre de Simone Veil. On se demande d'ailleurs si cette révélation tardive n'éclaire pas rétroactivement tout ce qu'elle a mis en œuvre dès le début de son travail, de son entreprise. De toute ma vie, dit-elle, dans une lettre fameuse au père Perrin qu'on entendra tout à l'heure, de toute ma vie, je n'ai jamais, à aucun moment, cherché Dieu. C'est intéressant parce que certains paradoxes sont devenus des lieux communs. On pense par exemple à la phrase de Lévi-Strauss qui commence Triste Tropique, ce bréviaire du voyage. Il commence en disant « Je hais les voyages et les explorateurs ». Et là, nous avons Simone Veil, que la Vulgate se représente comme une folle en Dieu, qui dit « De toute ma vie, je n'ai jamais, à aucun moment, cherché Dieu ». Alors, comment faut-il, selon vous, Florence de Lucie, comprendre cette phrase? Est-ce que c'est un paradoxe ou est-ce qu'elle dit au contraire la vérité profonde d'un rapport à Dieu où c'est finalement lui qui nous trouve?
Non, je suis sûre qu'elle a raison et qu'elle ne ment pas, elle ne ment jamais d'ailleurs. Et en particulier dans les lettres à son ami Jean Posternak, elle lui donne des leçons de platonisme naturellement, elle est pédagogue avant tout, donc elle essaie d'apprendre le grec à son ami Jean Posternak. Et elle lui dit que de toute façon, elle ne s'intéresse pas à ce qui se passe après la mort. Il n'y a que l'ici-bas qui compte. Elle est résolument indifférente au domaine religieux en tant que tel. Elle l'est encore à cette époque, ce qui est tout à fait remarquable.
Donc non seulement l'au-delà ne l'intéresse pas, mais en plus, tous les malheurs, c'est-à-dire tout ce qu'on pourrait tenir pour une preuve de l'inexistence de Dieu, elle en fait au contraire la substance même de la divinité, ou la preuve même de la divinité, Dominique Bourrel.
Oui, moi je pense qu'il n'y a pas de judaïsme athée et qu'il n'y a pas de juif athée. Donc elle n'a pas besoin de chercher Dieu, puisque un juif ou une juive le rencontre, ou l'a rencontré, ou va le rencontrer. Et donc je pense que déjà, Simone Veil fait partie d'un peuple, de ce peuple juif, qu'elle le veuille ou non. D'ailleurs, c'est bien comme ça qu'elle l'a ressenti. C'est même ce côté qui devait l'agacer. Hein, ce côté peut-être qu'on ne choisit pas d'être juif, Lévinas se disait, de toute façon, ça vous rattrape. Et cette famille d'intellectuels, cette famille de brillants, cette famille de... elle a un côté commissaire politique aussi tout à fait extraordinaire, comme sont tous ces marxistes sécularisés qui apparaissent dans les romans des frères Singer, qui sont tous des fils de rabbins, puisque, comme disait l'autre, n'est-ce pas, les gens étaient soit commissaires politiques, soit psychanalystes, soit rabbins.
Il n'y a pas de juifs athées, mais il y a des juifs antisémites. Est-ce que Simone Veil en fait partie, selon vous?
Ça, c'est beaucoup plus compliqué, parce que ces juifs antisémites, on ne sait pas, à quel niveau se situe l'antisémitisme. Il y a des gens qui n'aiment pas leur propre famille, il y a des gens qui n'aiment pas la représentation qu'on avait à l'époque du judaïsme. Je suis toujours un peu... je me méfie de cette catégorie de la célèbre haine de soi.
Allons-y dans les textes, parce qu'en l'occurrence, on pourrait, de mauvais esprit, en tout cas, pourrait voir... en Simone Veil, une figure de la haine de soi, en tout cas une volonté de mortification, doublée d'un antisémitisme parfois virulent. Je la lis, hein, on est ici dans la pesanteur et la grâce, un texte dont le titre n'est pas d'elle, mais qui rassemble des textes qu'elle a écrits, notamment un texte sur Israël. La malédiction, donc c'est Simone Veil qui parle, la malédiction d'Israël pèse sur la chrétienté. Les atrocités, l'inquisition, les exterminations d'hérétiques et d'infidèles, c'était Israël. Le capitalisme, c'était Israël, ce l'est encore dans une certaine mesure. Le totalitarisme, c'est Israël. Notamment, ajoute-t-elle, chez ses pires ennemis. Il faut lui rendre cette justice. Le capitalisme, c'était Israël, c'est une phrase ahurissante, Florence de Lucie.
Oui.
Enfin, Dieu donné dirait ça aujourd'hui, personne ne serait surpris.
Oui, c'est totalement révoltant. C'est... J'avoue que ça me laisse bouche bée, vous voyez, des déclarations de cette violence. J'ai du mal à réagir.
Oui, Dominique enfin, Morel. Oui, moi, pas du tout, parce que je viens d'une famille un peu réactionnaire, bourgeoise, catholique, provinciale, enfin bref, comme les Français, si je puis dire. Et c'est ça qu'on entendait. Hein, c'est ça qu'on entendait à l'époque. C'est un peu dommage que quelqu'un qui est normalien et agrégé fasse des raccourcis comme ça. C'est surtout ça qui est grave. Pas que ça ressemble à Dieudonné. Que quelqu'un qui a eu l'enseignement de Le Sen et d'Alain à l'époque où on publiait Franz Rosenzweig, Martin Buber et Hermann Cohen disent des choses comme ça. Ça, c'est un peu choquant. Et vous trouveriez dans l'intelligentsia française de l'époque, on parlait de Louis Massignon tout à l'heure, François Mauriac et tant d'autres. Et on avait d'ailleurs la même chose au service du protestantisme. C'était effectivement des gens qui étaient des capitalistes, des gens qui faisaient le drame. Pour un bon catholique, ce que vous citez, c'est vraiment quelque chose qu'on a entendu tous les jours, en tout cas jusqu'en 38-40.
Oui, mais enfin, le fait que tout le monde le dise ne le rend pas moins scandaleux, oui. Non, Florence de Lucie.
Et puis elle était si peu catholique, de fait. Elle était étrangement catholique, enfin, elle ne l'était pas, pour tout dire.
Alors, on va discuter de son rapport au catholicisme. Oui. Restons un instant quand même, donc, de son rapport à l'Église, plus exactement. Hein. On va en parler de ça. On va notamment entendre le père Perrin lui-même, d'ailleurs, raconter ce rapport étrange qu'entretenait Simone Veil avec le catholicisme et avec l'institution catholique. Mais avant cela, revenons un instant sur son rapport à Israël et au judaïsme. Est-ce que finalement, le reproche que Simone Veil fait au judaïsme ne vient pas du fait qu'en ne reconnaissant pas l'existence de Jésus, la divinité des Juifs relève de l'ordre de la puissance et non pas de l'ordre de la morale, hein, Dominique Bourrel.
Oui, peut-être, mais c'est un cas tellement clair dans l'histoire juive que c'est pas plus choquant que ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un qui, justement, est d'origine juive, comme on dit, est pas religieux, eh bien, on n'est pas tellement étonné de le trouver aussi anti... j'allais dire que sa tradition anti-religieuse se fait passer pour de l'anti-judaïsme. Moi, je pense au contraire que le fait même, d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, si vous voulez bien, il y ait tant de juifs qui aient été intéressés par sa pensée, parce que c'est quand même très curieux qu'il y ait Bergman, Scholem, Buber, que, encore une fois, je le disais tout à l'heure hors antenne, que des grands professeurs avaient l'image de Simone Veil sur leur bureau à l'Université hébraïque de Jérusalem. C'est qu'il y a donc bien, presque bizarrement, une espèce de complicité, une espèce de signe de reconnaissance que même dans ce... Il y a un côté Heinrich Heine, enfin, il y a ce côté comme ça, agressif, inutilement méchant, et en disant des bêtises incroyables, encore une fois, comment peut-on parler comme ça d'Israël ? Il y a même pas besoin d'être antisémite pour dire des âneries comme elle a pu dire sur Israël, et elle peut dire des choses tellement intelligentes sur le bouddhisme. Elle a lu Fraser, elle a lu tout Platon, bien évidemment, dans les textes originaux, et là, et tout d'un coup, vous entendez n'importe quoi. Vous entendez quelque chose qui est d'un... On n'ose même pas dire que c'est d'un niveau intellectuel. Elle n'a pas pu entendre Le Sen ou Alain dire des choses comme ça. Donc, si vous voulez, c'est tellement épidermique. Il y a tellement quelque chose qu'on pourrait dire. Il n'y a qu'un juif qui peut même dire ça.
Florence de Lucie.
Oh, vous allez un petit peu fort tout de même. Je pense qu'elle épousait la société de son temps. Hein, sans entrer complètement dans leur manière de faire, mais enfin, ce sont des travers épouvantables qu'elle a embrassés d'une façon relativement naturelle.
Mais elle avait une façon d'épouser la société de son temps qui était également une façon de le théoriser. Si c'était quelques sorties ou quelques phrases malheureuses au détour d'un paragraphe, je veux bien. Mais quand elle dit « Connaître la divinité seulement comme puissance et non comme bien, c'est l'idolâtrie ». L'idolâtrie. Hein. Et peu importe alors qu'on ait un dieu ou plusieurs, c'est seulement parce que le bien est unique qu'il faut reconnaître un seul dieu. En d'autres termes, Moïse a beau imposer des commandements d'ordre moral, comme il a défini Dieu comme l'être et non comme bien, eh bien, il était d'abord et avant tout un fondateur d'État, un homme de puissance et par là même d'ailleurs une source d'esclavage.
Oui, mais elle se trompe. On ne peut pas dire ça de Moïse, on ne peut pas dire qu'on est justement d'un côté du côté de l'être et pas du côté de la morale, d'un côté du côté... de la puissance et pas du côté du bien, etc. On pourrait reprendre toutes les phrases qu'elle dit sur le judaïsme en montrant qu'elle se trompe et en montrant que même de son temps, même devant elle, elle aurait pu, par exemple, ce père Osterreicher dont elle parle plusieurs fois, qui est aussi un juif converti extrêmement intéressant, qui a fait des livres passionnants sur justement le rapport entre les philosophes juifs et les philosophes chrétiens, elle aurait pu, j'allais dire méchamment, se documenter un peu plus. Non, il y a quelque chose de trop trop tribal, quoi. Qui aime bien châtie bien. Elle est trop proche de ça, même dans son côté, encore une fois, commissaire politique, dans son côté agite-propre. Et elle a dû le sentir parce qu'elle est trop intelligente. D'ailleurs, quand elle écrit cette phrase géniale, elle dit « Hitler veut plagier les Juifs. C'est tout à fait intriguant comme phrase. C'est-à-dire qu'elle a compris...
Hitler avait donc deux modèles à la suivre, hein, les Romains et les Juifs.
C'est-à-dire qu'il y a deux élections. Et le problème de l'antisémitisme allemand, c'est le problème de deux peuples élus sur une même terre. Le problème de l'Allemagne qui est un peuple élu et le problème du judaïsme qui est un peuple élu. Et ça, si vous voulez, au détour d'une phrase, ça trompe pas. Donc, si vous voulez, moi, je la trouve beaucoup plus, encore une fois, c'est du Heine. C'est-à-dire que cette espèce de gens qui ne se sont pas retrouvés dans le judaïsme qu'on leur a offert à l'époque, ça, on peut très bien comprendre, dans ce judaïsme, de Légion d'honneur sur canapé, dans ce judaïsme bourgeois, dans ce judaïsme qui avait commencé à prendre, en plus, pour lui, les âneries que le christianisme racontait sur lui. Plus, aujourd'hui, il n'y a plus un chrétien qui vous dirait ces choses-là du judaïsme.
Il n'est pas étonnant, je la cite, et on va s'arrêter là, on va également parler de son rapport à Dieu et de son rapport également au catholicisme qu'elle veut purger, donc de tout judaïsme. Il n'est pas étonnant, dit-elle, qu'un peuple d'esclaves fugitifs, conquérant d'une terre paradisiaque, aménagée par des civilisations au labeur desquelles ils n'avaient eu aucune part et qu'ils détruisirent par des massacres, qu'un tel peuple n'ait pu donner grand-chose de bon. C'est pour cela que tout est souillé de péché dans Israël, parce qu'il n'y a rien de pur sans participation à la divinité incarnée et pour que le manque d'une telle participation fût manifeste.
Ben oui, mais enfin, la divinité incarnée, c'est les commandements juifs. La divinité incarnée, c'est justement la présence des Juifs à Jérusalem, etc., etc. On ne va pas commencer à noter phrase par phrase tout ce que dit Simone Veil sur Israël, mais encore une fois, on pourrait le retourner à chaque fois et c'est tellement pathétique que ça a un côté justement familial, quoi, tribal. Hein.
Tribal, est-ce qu'en le retournant, on ne peut pas, d'une certaine façon, avérer, peut-être ne lui en déplaise, une certaine forme de judaïsme chez Simone Veil?
Moi, j'en suis très, très profondément persuadée.
Je pense que Lucie.
Vous l'avez dit d'une façon très éloquente. Moi, je vois un mode d'acharnement, en effet, comme vous disiez, et même dans le mode de réfléchir, dans le mode de triturer les pensées, d'aller jusqu'au bout, de tourner et retourner, de prendre les concepts, de les faire s'entrechoquer indéfiniment. Il y a là quelque chose que... après Sylvie Veil, d'ailleurs, qui a employé l'expression, est quelque chose de quasi talmudique. Elle a une manière de ressasser avec une certaine jubilation, avec succès, d'ailleurs, hein, en allant jusqu'au bout de chaque pensée qu'elle se propose.
Bien sûr, parce que je pense qu'elle est trop intelligente pour être simplement marcionite, c'est-à-dire la fameuse hérésie dans le monde chrétien qui a eu lieu aussi en Allemagne, justement, dans les années 30, qui voulait enlever, justement, tout ce qu'il y avait de l'Ancien Testament, comme disent les chrétiens, et du judaïsme dans la pensée chrétienne. Donc, elle sait bien que c'est un peu gros, elle sait bien que ça ne tient pas debout, comme Claudel, d'ailleurs. Hein. Donc, ils savent bien qu'on ne peut pas utiliser cet argument-là. Quand elle écrit « Dieu veut qu'on s'intéresse à lui et absolument rien d'autre », mais alors ça, si c'est pas une parole d'un juif, alors je voudrais bien savoir de qui c'est.
Alors, elle se définissait elle-même comme hérétique. Pardon, Florence de Lucie.
Mais néanmoins, marcionite, elle se l'évolue jusqu'au bout. Dans la lettre religieuse, vous voyez ça prouve aussi qu'elle est juive par cette espèce d'entêtement. Elle sait probablement au fond d'elle-même qu'elle se trompe, mais elle ne le reconnaîtra pas. Et jusqu'au bout, elle enfoncera son clou.
Est-ce que ça n'est pas contradictoire avec ce que vous disiez au tout début de cette émission, Florence de Lucie, quand vous disiez qu'elle ne mentait jamais? Voilà quelqu'un qui ment avec la conscience de son mensonge.
Ah, ça, c'est exact. Elle ne ment jamais sauf là. C'est le domaine où elle perd son fil, elle se perd. Elle est d'une mauvaise foi absolument ahurissante, remarquable.
Eh bien, reprenons donc le fil de ses réflexions et de son rapport à Dieu, avec notamment, on va entendre notamment quelques lignes de la lettre au Père Perrin, cette lettre fameuse donc, qui commence par « Je n'ai jamais à aucun moment cherché Dieu », une lettre interprétée par Anne Brissier. Écoutez.
Je peux dire que dans toute ma vie, je n'ai jamais, à aucun moment, cherché Dieu. Pour cette raison peut-être, sans doute trop subjective, c'est une expression que je n'aime pas et qui me paraît fausse. Dès l'adolescence, j'ai pensé que le problème de Dieu est un problème dont les données manquent ici-bas, et que la seule méthode certaine pour éviter de le résoudre à faux, ce qui me semblait le plus grand mal possible, était de ne pas le poser. Ainsi, je ne le posais pas. Je n'affirmais ni ne niais. Il me paraissait inutile de résoudre ce problème, car je pensais qu'étant en ce monde, notre affaire était d'adopter la meilleure attitude à l'égard des problèmes de ce monde, et que... cette attitude ne dépendait pas de la solution du problème de Dieu.
Je me suis toujours interdit de penser à une vie future, mais j'ai toujours cru que l'instant de la mort est la norme et le but de la vie. Je pensais que pour ceux qui vivent comme il convient, c'est l'instant où, pour une fraction infinitésimale du temps, la vérité pure, nue, certaine, éternelle, entre dans l'âme. Je peux dire que jamais je n'ai désiré pour moi un autre bien. Florence de Lucie et Dominique Bourrel sont nos invités aujourd'hui pour parler de Simone Veil dans le cadre de cette semaine donc, que les Nouveaux Chemins de la Connaissance consacrent à Simone Veil. Et nous en sommes au quatrième temps, hein, quatrième étape de cette semaine, c'est de religion que nous parlons aujourd'hui. Et on vient d'entendre donc cette lettre tout à fait étonnante dans laquelle elle dit à la fois qu'elle n'a jamais cherché Dieu, laissant entendre d'ailleurs que c'est Dieu qui la trouve. Il y a en cela d'ailleurs une véritable interprétation de Pascal, probablement chez Simone Veil, mais également une lettre dans laquelle elle explique que Dieu n'est presque pas le problème de la vie quotidienne. Et je voudrais vous poser cette question à l'un comme à l'autre, à l'une comme à l'autre. Est-ce qu'il n'y a pas chez Simone Veil ce qu'elle appelait elle-même d'ailleurs un déchirement qui résulte d'un affrontement entre deux certitudes? Le premier, c'est la certitude connue par contact de la réalité de Dieu. Et la seconde certitude serait la certitude d'une réalité non moins éprouvée dans le malheur des hommes. Qu'en pensez-vous, Florence de Lucie?
Oui, ce déchirement, d'ailleurs, elle l'a exprimé en termes absolument magnifiques à la lettre, dans une lettre à Maurice Schumann lorsqu'elle était à Londres. C'est un déchirement que l'on peut comprendre. Je pense que le problème de la foi doit intégrer ce déchirement. Il est impossible d'être croyant sans reconnaître ce tremendum profond. On ne peut pas croire tranquillement, ça n'existe pas.
Justement, elle présente Dieu comme une source d'inconfort. Hein. Elle dit que quand on veut, en somme, avoir la foi, c'est assumer l'inconfort d'exister, ce qui est quand même tout à fait paradoxal, puisqu'en général, l'utilisation ou l'usage qu'on peut faire de la foi, c'est précisément trouver une forme de sérénité, de certitude ou de tranquillité. Elle recherche l'intranquillité
en
cherchant Dieu.
Oui, sauf que là, on se retrouve justement tout à fait dans une situation, pardonnez-moi, mais des juifs, et même de juifs pieux. Vous savez très bien qu'une série de passages dans la liturgie, par exemple, de Yom Kippour fait qu'on...
Ça, c'est de l'humour juif, en fait, vous judaïsez Simone Veil.
On discute pied à pied, non, mais je m'étonne, on discute pied à pied, on râle, on se dit bonne signature, on se dit Khatimatova, bonne signature, c'est-à-dire, il y a un passage formidable de Léon Blois et de Peggy là-dessus, où les deux, où il dit, c'est tout à fait extraordinaire, en parlant de Spinoza, où il dit, c'est extraordinaire, parce qu'on a l'impression qu'il discute pied à pied avec Dieu, et là, on voit bien ce dont vous parliez tout à l'heure, ils disent, c'est bien des commerçants, c'est-à-dire, vous voyez, ils n'arrivent jamais
j'ai dit ça, moi.
À soulever. Non, pas vous, mais les gens qui... Non, mais votre citation tout à l'heure
sur le capitalisme.
Hein, en disant, mais ils discutent pied à pied avec Dieu et on dit, c'est bien des commerçants parce qu'ils sont là en train de signer un contrat avec Dieu. Mais, par exemple, quand vous lisez une phrase comme « l'enfer ne prévaudra pas », Shaul Friedlander avait toujours une très belle image pour ça. Il disait, finalement, le problème des Juifs, c'est qu'ils ont toujours été trop optimistes, contrairement à ce qu'on pense. On a toujours l'impression qu'ils étaient là à se plaindre, que tout le monde est contre eux, etc. Mais en réalité, jusqu'au dernier moment, dans le monde juif et dans ces textes du judaïsme, l'enfer ne prévaudra pas. Ça va toujours aller mieux. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'une... Et c'est ce qu'on trouve dans les, j'allais dire toujours, les commissaires politiques fils de rabbin, c'est-à-dire c'est le capital, c'est Isaïe sécularisé. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un moment où le chevreau habitera avec le lion, etc., etc. Et cette idée-là, c'est le prophétisme. Et cette idée-là, alors c'est toujours difficile de faire de l'essentialisme en disant c'est une idée juive, c'est pas une idée chrétienne, etc. Je crois pas beaucoup. Mais en tout cas, c'est pas une idée grecque. Et cette idée-là, à mon sens, elle l'a quand même. Alors dans le judaïsme, dans l'anti-judaïsme, ça, c'est un autre problème. Mais en tout cas, ça court à travers tous ces textes. Et c'est la raison pour laquelle je reviens là-dessus. Autant Martine Buber, autant Shmuel Hugo Bergman, autant Oesterreicher, tous ces gens-là ont été fascinés toute leur vie par cette personne en disant c'est quand même invraisemblable.
Mais pourtant, revenons un instant à son christianisme, en tout cas une interprétation peut-être un peu nietzschéenne de son christianisme, c'est-à-dire au platonisme de Simone Veil. Simone Veil est incontestablement platonicienne, en tout cas sur un point très précis, qui est que dans le Phédon Platon, Socrate explique que la mort n'est pas un drame, elle n'est que le parachèvement d'une démarche qu'on a accomplie tout au long de la vie quand on est philosophe, c'est-à-dire qu'on s'est exercé à détacher l'esprit du corps et qu'en somme la mort vient parachever ce mouvement qui doit être celui de la sagesse tout au long de la vie. Le mouvement de Simone Veil, la trajectoire de Simone Veil, à ce titre, est profondément platonicienne. Florence
de Lucie. Mais chez Simone Veil, vous trouvez toujours une position comme celle que vous venez d'énoncer, elle la pose jusqu'au bout. Mais vous trouverez aussi la position inverse. Donc vous avez, en effet, une vie pour la mort, en ce sens que le moment de la mort est le moment privilégié où l'on va rencontrer, enfin, la réalité de ce monde et de l'autre, ou de soi, de tout. Et en même temps, elle a une répugnance à s'échapper. La formule du tête, il faut fuir d'ici-bas. Elle l'emploie naturellement, mais elle emploiera aussi bien une autre formule. C'est ici et maintenant, revenons. Enfin, c'est le retour dans la caverne du Timée qui semble prédominer.
C'est ce que j'allais vous dire.
Oui. Justement, vous trouvez toujours l'un et l'autre chez elle.
Est-ce qu'elle elle n'est pas écartelée entre ces deux formes de contact, précisément? Puisque Simone Weil faisait, c'est étrange platonisme quand même, Simone Weil faisait de l'expérience la matière première et la matière unique, en vérité, de toute pensée. Elle ne cesse de le dire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle refusait de dormir sur un lit. C'est également la raison pour laquelle elle voulait aller en usine. C'est la raison pour laquelle elle s'interdisait de parler de ce qu'elle n'avait pas vécu.
Oui.
Rien de plus noble. Mais quand elle dit « Il y a seulement une occasion où je ne sais vraiment plus rien de cette certitude de l'amour de Dieu. C'est une lettre au Père Perrin du 26 mai 42. On est à la fin, là. Hein. Et alors, là, c'est étonnant parce qu'elle elle revient sur elle-même et elle oppose explicitement ce goût de l'expérience et cette saveur de l'éternité. Elle dit donc, il y a une occasion où je ne sais vraiment plus rien de cette certitude de l'amour de Dieu, c'est le contact avec le malheur d'autrui. Ce contact me fait si atrocement mal, me déchire tellement l'âme de part en part que l'amour de Dieu me devient quelque temps presque impossible. Il s'en faut de bien peu que je ne dise l'impossible. Comment comprendre ça, Dominique Bourrel?
Parce que je crois qu'elle est tout le temps en train d'osciller entre le militantisme et la mystique. C'est-à-dire, et vous l'avez bien dit, elle est tout le temps à l'intérieur de la cité, de la chose même, de l'usine, etc. Parce que, après tout, une petite juive intelligente, elle aurait pu faire autre chose, faire des livres, elle aurait pu... Je la compare de temps en temps à la femme de Malraux. Hein, on voit bien une intellectuelle, ou si ce que c'était une intellectuelle juive de cette époque-là, la première femme de Malraux, et elle a voulu être en même temps, Simone Weil, militante, prof de lycée, alors pour moins que ça, elle aurait pu avoir une bourse, faire une thèse, partir à Princeton et écrire. Et de l'autre côté, comme si son militantisme la renvoyait à la mystique, et que la mystique la renvoyait de nouveau à chaque fois, un peu comme Louis Massignon, qui a fait toute sa vie de la mystique musulmane et l'Al-Hajj, etc., et qui le soir allait dans les banlieues, apprendre aux maghrébins l'arabe en disant « Faites attention, vous avez une vraie culture, vous ne pouvez pas vous laisser déposséder de ça. » Donc cette espèce de dualité permanente entre le militantisme et la mystique qui nous échappe un peu aujourd'hui, je dois dire, je pense que c'est quelque chose de très important.
Alors l'autre dualité chez Simone Weil, c'est donc son rapport au christianisme, un rapport à la fois ardent, une ardeur presque spontanée et en même temps une ardeur qui va avec une méconnaissance totale des pratiques qui sont celles du culte en l'occurrence et un mépris ouvert pour toutes les églises chrétiennes. Elle se définissait elle-même, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez rappelé, comme hérétique. On va entendre le père Perrin raconter les premiers pas de Simone Weil dans la foi, son rapport à la prière et, pardonnez-moi Florence de Lucie, un mensonge qu'elle lui fait. Écoutez.
Tout de suite, je lui ai demandé si elle priait. Ça a été une des premières questions qui a eu de l'importance parce qu'elle m'a répondu oui et qu'elle savait très bien que son oui ne recouvrait pas la vérité. Mais ça, c'est une chose difficile à dire. Elle me l'a expliqué plus tard. Au fond, elle avait été éblouie intérieurement par la rencontre de Dieu, du Christ, la conscience d'être aimée par le Christ, mais en même temps, elle était tellement ignorante, alors là c'est frappant, enfin, de toutes les réalités religieuses, qu'elle n'avait pas osé s'adresser à Dieu, elle n'avait pas osé prier. Et je crois que c'est très important quand on pense à n'importe quelle culture française, que l'on soit de n'importe quelle philosophie, un Français a au moins dans les pièces de théâtre de Racine, ou dans des lectures des grands classiques, quoi, vu des textes de prière. Alors, elle avait lu les psaumes, elle avait donc tout cela. Mais ça n'était pas entré comme une possibilité en elle. Et alors, elle m'a répondu oui, parce qu'elle ne pouvait pas m'expliquer cela, et qu'elle ne voulait pas, à ce moment-là, elle n'avait pas du tout le désir de m'expliquer à quel point elle était habitée par cette présence de Dieu dans le Christ.
L'amour divin a traversé l'infinité de l'espace et du temps pour aller de Dieu à nous. Mais comment peut-il refaire le trajet en sens inverse quand il part d'une créature finie? Quand la graine d'amour divin déposée en nous a grandi et est devenue un arbre, comment pouvons-nous, nous qui la portons, la rapporter à son origine, faire en sens inverse le voyage qu'a fait Dieu vers nous, traverser la distance infinie? Florence de Lucie, est-ce que vous diriez que Simone Veil est une mystique?
Elle est une mystique, c'est absolument évident. C'est-à-dire qu'il faut même, si on veut vraiment s'intéresser à elle, on est obligé de partir de cette expérience qu'elle a faite du Christ. Elle en parle admirablement, elle en a parlé que deux fois, en termes d'ailleurs extrêmement pudiques, et nous sommes quelquefois un peu impudiques d'insister trop fort sur cette chose. Mais la chose est absolument irréfutable. Alors, mon problème à moi, ma question, ou la question de ceux qui s'occupent d'elle, mais que va-t-elle faire de ça? Mais qu'en faire? Elle était totalement impréparée. Elle connaissait infiniment mieux les religions non chrétiennes que les religions chrétiennes. Elle n'avait aucune familiarité avec les catégories de pensée des gens d'église. Elle ne pouvait pas penser comme eux. C'est pour ça d'ailleurs, je trouve que c'est une chance extraordinaire. Elle repense une foi avec de tout autre terme. À mon avis, c'est ça la génialité de Simone,
une
ou du
foi,
moins l'intérêt extraordinaire que nous pouvons y trouver.
Une foi pure de toute pratique, on pourrait le dire comme
ah, bien
ça.
Sûr.
Pure de tout folklore, en somme. Dominique Bourrel.
Oui, ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est qu'elle ne parle pas beaucoup de conversion, c'est le moins qu'on puisse dire, alors qu'à l'époque...
Et elle ne se fait pas baptiser.
Elle ne se convertira pas, bien évidemment, et que tout le monde se convertit. Vous vous souvenez, il y a l'abbé Altermann, il y a Charles Dubos, ça se convertit en masse entre les deux guerres, des intellectuels, etc. Et on a l'impression que ça lui vient pas à l'esprit, quoi. Alors là, il y a quand même quelque chose aussi qui est un signe, quoi, hein, comme si, de toute façon, il y a un pas qu'elle ne franchirait pas. Et ça, c'est quelque chose qui avait beaucoup marqué Lévinas aussi, qui en parlait très souvent, qui disait il y a quand même une grande différence, quoi, parce que des juifs athées, ça gêne pas, des juifs qui aiment pas les juifs, ça gêne un peu plus, mais c'est pas des juifs convertis, tout comme Bergson d'ailleurs, c'est la grande différence avec Edith Stein.
Mais si vous me permettez, la différence également avec Bergson, c'est que si Bergson ne s'est pas converti, c'était, dit-il, pour ne pas quitter le camp de ceux qui seraient demain des persécutés. En 36, je ne suis pas certain que Simone Veil ait eu ce souci-là.
Oui, vous avez raison. D'un autre côté, pour Bergson, on sait maintenant, grâce aux travaux du professeur Soulez, que par exemple, il a eu une très grosse activité, comme vous savez, aux États-Unis, entre les deux guerres, etc. Et que donc, son éloignement du monde juif était quelque chose qui, paradoxalement, était peut-être une espèce de petite légende de certains intellectuels français qui avaient du mal avec tout ça. Hein, ça, c'était un tout autre débat, mais avec Brunswick, Alcan, Durkheim, etc., ça fait beaucoup d'intellectuels juifs dans la vie intellectuelle française et on a du mal, bien sûr, avec ça.
Alors, je renvoie d'ailleurs à ce titre, hein, l'auditeur, à la biographie que Philippe Soulez a consacrée à Bergson, biographie qu'il a inachevée puisqu'il est mort accidentellement pendant la rédaction de cette biographie. Et la biographie de Bergson a été achevée à ce moment-là par Frédéric Worms, de sorte que cette biographie a été écrite, parue aux presses universitaires de France, écrite à quatre mains par deux personnes qui, pourtant, ne se connaissaient pas. Et on va entendre, justement, la voix de Frédéric Worms, qui, lui, est toujours là, d'ailleurs. Heureusement, c'était dans une émission de Francesca Piolo, Filambule, qui date de 98, dans laquelle Frédéric Worms revient sur les expériences mystiques de Simone Veil et le vocabulaire philosophique employé par Simone Veil pour décrire justement cette expérience mystique. Écoutez.
Il est plus facile de parler de philosophie politique que de philosophie mystique. On a l'impression que la philosophie politique, c'est un discours constitué. Déjà, elle le déborde précisément en passant de la philosophie à l'expérience. Pour la philosophie mystique, c'est l'inverse. On a l'impression qu'on est d'emblée dans l'expérience, qu'il n'y peut y avoir de mystique que des expériences personnelles. Et là, il faudrait justement ne pas s'en tenir au folklore, aux expériences personnelles ou impersonnelles qu'elle cherche à avoir et à obtenir, mais à la description théorique qu'elle en donne, aux concepts précis qu'elle emploie pour les décrire, par exemple, non pas le concept, je dirais, d'immatérialité, mais le concept de surnaturel, non pas le concept de personne divine qu'elle rencontre, mais le concept, au contraire, d'expérience impersonnelle, etc. Donc il faudrait faire attention au vocabulaire philosophique qu'elle emploie pour décrire des expériences, même si ces expériences dépassent la philosophie.
Thank you. chão passo espreito. Não quero cantar na moção, passo espreito. São frios raios suaves, verdes garras dos sentidos. São frios raios suaves, verdes garras dos sentidos.
Par-dessus l'infinité de l'espace et du temps, l'amour infiniment plus infini de Dieu vient nous saisir. Il vient à son heure. Nous avons le pouvoir de consentir, à l'accueillir ou de refuser. Si nous restons sourds, il revient et revient encore comme un mendiant, mais aussi comme un mendiant un jour ne revient plus. Si nous consentons, Dieu met en nous une petite graine et s'en va. À partir de ce moment, Dieu n'a plus rien à faire, ni nous non plus, sinon attendre. Florence de Lucie et Dominique Borel sont nos invités aujourd'hui pour parler de Simone Veil. Parler de Simone Veil, de son rapport à la religion, au judaïsme, à Dieu, au catholicisme, au christianisme. Florence de Lucie, vous étiez d'accord pour parler de Simone Veil comme d'une mystique. Que penser de cette façon philosophique, de ce vocabulaire, de ce lexique philosophique dont parlait Frédéric Worms, qu'elle emploie pour décrire en même temps des expériences qui transcendent à ses yeux et dans son cœur l'expérience philosophique?
Elle appartient de toute évidence à la mystique
spéculative. Est-ce qu'elle est philosophe, selon vous?
Oh, totalement, continuellement, merveilleusement, puisqu'elle arrive à philosopher le monde du surnaturel. Elle arrive à mettre des mots, justement, sur ce qui, normalement, est quasiment en dehors des catégories de la langue philosophique. Non, je pense qu'il y a là quelque chose d'assez prodigieux, et précisément dans les dernières pages des intuitions préchrétiennes, les pages pythagoriciennes.
Une forme de syncrétisme, donc, une philosophie qui serait une mystique spéculative en même temps.
Je distinguerai tout cela. Je dirais que d'abord, elle est tellement mystique que tout est parti sur une expérience, que de toute façon, elle a par rapport au commun des mortels, à nous pauvres êtres qui n'ont jamais touché que la terre ferme, elle a sur nous un avantage... un avantage tellement gigantesque qu'il est difficile, si vous voulez, d'entrer dans ses propos. Elle dit, il n'y a que celui qui a rencontré et touché Dieu qui. Alors évidemment, si vous commencez une phrase comme ça, vous êtes sûr de ne pas pouvoir entrer dans ces catégories. Mais cette échappée mystique lui permet d'échapper à l'étouffoir qu'est l'Église et son enseignement. Voyez-vous, elle parle même du totalitarisme de l'Église. Au fond, elle est protégée, voyez-vous, elle a une carapace avec ce privilège exorbitant qu'elle a reçu, et ça lui permet de faire face, de fronder, de reculer, de dire d'une façon presque insolente au Père Perrin, vous savez, ce n'est pas vous qui me convertirez, c'est déjà fait, et c'est fait autrement. Enfin, c'est incroyablement insolent.
Oui, c'est même un tout petit peu facile, parce qu'elle regrette, c'est aussi la meilleure part de la religion. Si vous acceptez pas, en même temps, on peut pas se faire un catholicisme à la carte, quoi, malheureusement, ni même un judaïsme à la carte, ni même une pensée musulmane à la carte, et ça fait partie d'un tout. L'Église, y compris son côté institutionnel, y compris son côté d'ordre, cette société d'ordre. Et je pense que la culture française, et c'est pour ça qu'elle nous étonne, je pense que la culture française a beaucoup de mal à articuler, justement, comme le disait très bien Worms, la philosophie avec la mystique. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup de mal à lire, par exemple, des personnalités comme Gershom Scholem, parce qu'on voit bien toutes ces références, c'est du côté de Fraser, c'est du côté de la science des religions, c'est du côté de l'érudition, c'est du côté des... Mais articuler vraiment le monde de la philosophie avec le monde de la mystique, vous voyez, je l'imagine toujours.
Il n'y a peut-être qu'un seul, on en revient à lui, Dominique Borel, il n'y a peut-être qu'un seul philosophe autorisé qui réussit à le faire, c'est Bergson.
Oui, peut-être, parce que justement, j'imagine Brunswick ou Aron entendant Simone Veil, vous comprenez. Donc vraiment, c'est probablement d'ailleurs pour ça qu'elle nous parle tellement, parce qu'on a du mal, notre conceptualité, notre culture philosophique française est d'emblée, c'est un lit de Procuste, quoi.
Pardonnez-moi, alors, le lit de Procuste, rappelons-le pour l'auditeur. Procuste, c'est cet aubergiste de mauvaise compagnie qui coupe la tête des gens trop grands, d'aubergiste au lit unique, qui coupe la tête de ceux qui dépassent la tête ou les pieds et qui écartèle ceux qui sont trop petits. En somme, la métaphore de Procuste, c'est une métaphore qui somme tout le monde, qui nivelle tout le monde et qui coupe les têtes qui dépassent ou qui écartèle les nains. Revenons-en quand même. Ce que vous dites, je trouve, Dominique Borel, que vous êtes injuste, par exemple, avec Raymond Aron, qui, d'un certain point de vue, peut-être ressemble à Simone Veil, et je ne suis pas certain que le judaïsme d'Aron soit totalement étranger à cette possibilité. Aron, après tout, se définissait lui-même, selon l'oxymore, de spectateur engagé. Or, quelle meilleure façon de qualifier précisément le rapport que Simone Veil entretient à la réalité, qui est à la fois un rapport de contact, d'expérience, d'immanence, et en même temps d'élévation constante.
Oui, vous avez raison, mais je me demande s'il n'y a quand même pas chez Aron, en dehors d'un certain scepticisme, bien évidemment, quand même un côté d'homme des Lumières, quoi. Il a quand même un côté d'homme des Lumières, ce que n'a pas du tout Simone Veil.
Non, Simone Veil est une femme de la Lumière.
Ouais, oui, c'est vrai. C'est-à-dire, vous le disiez tout à l'heure en antenne, madame, que c'est Nicolas de Cuse, c'est Maître Eckhart. Alors, Nicolas de Cuse, c'est très intéressant, puisque c'est justement là que commencent les débats entre philosophie et mystique. Hein, Boubert a d'ailleurs fait sa thèse sur Nicolas de Cuse.
Et on a
toute une tradition, Klibanski, etc., on a toute une tradition juive de cet intérêt sur cette conjugaison philosophie et mystique.
Oui. Florence de Lucie.
Précisément,
dites-le au micro.
Elle s'est intéressée à Nicolas de Cuse juste au moment où elle se lançait dans la rédaction extraordinaire de ses pages pythagoriciennes d'intuition préchrétienne. Or, alors là, si ce n'est pas de la philosophie, elle utilise le concept qu'elle emprunte d'ailleurs à Platon, c'est-à-dire aux pythagoriciens via Platon, de moyenne proportionnelle, pour parler du Christ médiateur. Et donc, c'est une centaine de pages qui s'écoulent avec une éloquence, une facilité, une beauté philosophique, totalement philosophique, où elle essaie finalement, et elle, moi je pense qu'elle est tellement éloquente qu'elle nous convainc, elle nous montre que le Christ finalement est moyenne proportionnelle entre le Père et l'Esprit.
Est-ce que Simone Veil en même temps n'est pas une martyre de la médiation, c'est-à-dire de ces intermédiaires qu'on met entre soi-même et le monde, que l'intelligence interpose entre soi-même et le monde? En somme, est-ce que Simone Veil ne souffrait pas d'être trop intelligente? Est-ce qu'elle ne supportait pas, est-ce qu'elle ne vivait pas comme une douleur, un rapport finalement conceptuel au monde qui lui permettait de le comprendre malgré tout ce qu'elle pouvait éprouver? Dominique Borel.
Vous avez tout à fait raison. Ce qu'un goy dirait, c'est tout à fait juif. C'est-à-dire ce problème justement de médiation sans médiation, de concept, etc. Alors que dans le monde chrétien et catholique tel qu'on nous l'a enseigné et tel qu'on le voit d'ailleurs refonctionner de nouveau de nos jours, il y a de la médiation qui est claire, il y a de la hiérarchie, il y en a qui doivent pas savoir l'hébreu, il y a une traduction qui est canonique, il y a des textes qu'on lit, d'autres qu'on ne lit pas. Nicolas de Cuse et Maître Eckhart sont pas vraiment dans les textes qu'on enseigne dans le monde. Et je crois que vous avez tout à fait raison. Je pense qu'il y a dans chez Simone Veil toujours cette espèce de surplus d'intelligence qui est tout le problème et qui est un problème aussi de toutes ces religions révélées.
Mais qu'elle vit aussi comme un étouffoir.
Absolument, mais que vivent tous les hommes qui ont une religion et qui sont en même temps des philosophes.
Florence de Lucie.
Oui, mais elle envisageait tout simplement deux religions. Une religion institutionnalisée qu'elle méprisait et elle aurait peut-être aimé entrer dedans, mais en même temps, elle reculait. De fait, elle n'est jamais entrée. Et puis, justement, la position des mystiques qui, au-delà ou derrière la manière dont s'exprime la religion institutionnelle, on trouve le domaine de la vérité, en deçà. Donc, elle se place toujours en dehors.
Voilà, c'est intéressant quand
Dominique
on fait
Morel.
La comparaison, ce qu'a fait Sylvie Courtine avec Edith Stein. Je veux dire, Edith Stein, on voit bien que Edith Stein, elle prend tout en même temps. Et la mystique, et le christianisme, et le judaïsme, et une espèce de puisqu'on est à France Culture, une espèce d'Aufhebung où les choses sont relevées et de sursomption sans aucune difficulté, tout en disant ils viendront me chercher dans un couvent parce que je suis juive et qui meurt en camp de concentration, donc dans le cas d'Edith Stein. Alors qu'effectivement, on a l'impression que Simone Veil est restée un peu en deçà de cette expérience-là.
Aufhebung et sursomption, nous sommes sur France Culture incontestablement avec vous deux, Florence de Lucie. Lucie et Dominique Bourrel. Revenons quand même sur le rapport que Simone Veil entretient avec la question du malheur. Est-ce qu'en somme, bon, Edith Stein prenait tout, est-ce que Simone Veil elle-même ne prenait pas tout, mais en le vivant sur le mode de la contradiction ? Elle dit de la réalité, qui est quand même l'objet de sa quête. Elle dit de la réalité que l'indice de la réalité, c'est l'âpreté, la rugosité, la difficulté, l'inconfort et l'intranquillité qu'elle trouve dans la réalité comme dans la foi. Et en même temps, elle ne cesse de traquer les traces de la perte d'un retour à l'impersonnel, d'une déprise d'elle-même. Elle précise ultimement que l'indice par excellence canonique, si j'ose dire, de la réalité, ça n'est pas seulement la rugosité, l'âpreté, etc., mais c'est la contradiction.
Oui, Florence, mais alors, elle a une réponse intellectuelle, là encore. Elle a toujours une réponse intellectuelle. Chez les pythagoriciens, hein, « dicafre deonton sum phronesis », hein, c'est-à-dire la pensée, j'ai du mal à traduire, la pensée unanime des pensants séparés. Et en réalité, c'est le concept d'harmonie pythagoricienne. Une harmonie pour elle, une amitié, une analogie au sens le plus profond, c'est la réunion grâce à justement à une moyenne proportionnelle de deux faits, de deux concepts, de deux choses qui ne sont pas faites pour s'entendre.
Le temps passe, chers amis, oui. Et je voudrais quand même qu'on revienne d'abord sur ces trois expériences, ces trois contacts avec le catholicisme qui ont vraiment compté pour elle. Et je voudrais m'arrêter d'abord sur la seconde expérience. La première, c'est au Portugal, l'été 35, esclave parmi les esclaves, hein, elle travaille en usine, et elle dit que ce sentiment d'esclavage correspond à l'expérience d'une perte de l'existence personnelle. C'est une lettre à Jo Bousquet. Troisième expérience, Saint-Julien de Pérolas, elle est vendangeuse du 20 septembre au 22 octobre 41. Elle découvre la prière et elle adhère à ce moment-là au mystère de l'Eucharistie. Entre les deux, elle fait, elle le dit elle-même, entre les deux, elle fait ce qu'on appelle l'expérience de Solème. En 38, où, dit-elle, la pensée de la passion du Christ est entrée en elle une fois pour toutes. Et cet épisode, dit-elle, a rapport à la combinaison des maux de tête intenses et de la possibilité d'aimer à travers le malheur. Or, on a vu tout à l'heure, notamment dans ce qu'elle dit au père Perrin, que de temps en temps, la douleur d'autrui lui semble une impossibilité, s'oppose presque frontalement à son goût de Dieu. Alors, peut-être faut-il distinguer douleur et malheur chez Simone Veil. C'est peut-être pas la même chose, non, Dominique Bourrel?
Oui, c'est-à-dire que je pense qu'elle était en plus tellement en contradiction avec son milieu. C'est quand même quelqu'un qui nage dans le bonheur d'abord, qui est né dans le bonheur, qui est né avec une cuillère d'argent dans la bouche, qui est normalienne, qui est agrégée, aurait pu faire une carrière tout à fait extraordinaire, qui choisit quand même tout ce qu'elle fait, même quand c'est du côté de la rugosité, de l'aspérité, qui est donc en accord avec elle-même, qui a donc ce côté militant qu'elle a choisi. Et vous avez raison, elle a cette espèce de... Il y a une espèce de fascination de la mort, il y a une espèce de fascination de la douleur qui est très curieuse, qui n'est pas sans grandeur d'ailleurs, hein, mais qui est quand même, qui moi me frappe beaucoup. C'est pas du masochisme, mais il y a une, c'est pour ça que notre amie Laura Adler, qui dans son dernier livre a essayé d'en faire une jouisseuse malgré elle, si je puis dire, c'est un peu difficile, hein, parce qu'elle est quand même fascinée par la faiblesse, par la mort, mais c'est parce qu'elle vient pas de là, hein. Ça a un côté, je veux pas être désagréable en disant ça, parce que ça a un côté de réflexe de nanti, si vous voulez, qui va découvrir quelque chose qui lui est quand même très étranger, à part cette douleur, effectivement, comme vous le dites.
On va entendre un dernier texte de Simone Veil, extrait donc de la Pesanteur et la Grâce, dans lequel elle évoque la possibilité de la souffrance rédemptrice. Et la question de la rédemption par la souffrance jette un doute également, et je voudrais avoir votre sentiment là-dessus, sur la sincérité d'une souffrance. Que vaut une souffrance si l'on spécule sur la rédemption qu'elle promet? Mais voici le texte et je voudrais vous entendre là-dessus, Florence de Lucie.
La souffrance rédemptrice est celle qui met la souffrance à nu et la porte dans sa pureté jusqu'à l'existence. Cela sauve l'existence. Comme Dieu est présent dans la perception sensible d'un morceau de pain par la consécration eucharistique, il est présent dans le mal extrême, par la douleur rédemptrice, par la croix. De la misère humaine à Dieu, mais non pas comme compensation ou consolation, comme corrélation. Il y a des gens pour qui tout ce qui rapproche Dieu d'eux-mêmes est bienfaisant. Pour moi, c'est tout ce qui l'éloigne. Entre moi et lui, l'épaisseur de l'univers et celle de la croix s'y ajoutent. La douleur est à la fois tout à fait extérieure et tout à fait essentielle à l'innocence. Sang sur la neige, l'innocence et le mal. Que le mal lui-même soit pur. Il ne peut être pur que sous la forme de la souffrance d'un innocent. Un innocent qui souffre répand sur le mal la lumière du salut. Il est l'image visible du Dieu innocent. C'est pourquoi un Dieu qui aime l'homme, un homme qui aime Dieu, doivent souffrir. L'innocence heureuse, quelque chose aussi d'infiniment précieux. Mais c'est un bonheur précaire fragile, un bonheur de hasard, fleur de pommier. Le bonheur n'est pas lié à l'innocence. Être innocent, c'est supporter le poids de l'univers entier, c'est jeter le contrepoids. En se vidant, on s'expose à toute la pression de l'univers environnant. Dieu se donne aux hommes en tant que puissant ou en tant que parfait, à leur choix.
Florence de Lucie, de la misère humaine à Dieu, mais non pas comme compensation ou consolation, comme corrélation. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Si, nous revenons toujours à la corrélation des contraires selon la doctrine pythagoricienne. C'est-à-dire que « donne-moi un poids et je soulèverai le monde », je crois qu'elle a fondé le plus beau de sa pensée sur à la fois le juste souffrant de la République chez Platon, Jésus, bien naturellement, sur la croix. Et donc, le point où peuvent se rencontrer le monde et Dieu ne peut être que le point de rencontre des deux bras de la croix. C'est peut-être trop beau pour nous, c'est peut-être insupportable à dire, c'est peut-être impossible à penser. En tout cas, je crois que l'équilibre de cette mystique repose très précisément sur ce cœur sacré, si l'on peut dire, cette rencontre d'être au bord de la croix. La rencontre de l'équateur et de l'écliptique, enfin bon, elle a donné des variations innombrables de ce fait. Donc elle marie toujours ce goût pour la science, ce goût pour les concepts, ce goût pour la spéculation scientifique, ce goût pour les doctrines les plus anciennes d'ailleurs, puisque pour elle... la chronologie, l'histoire n'existe pas. Il faut toujours remonter plus haut vers les paléoïs, les anciens. Là, on est sûr de retrouver une vérité plus pure,
Dominique,
toujours la pureté.
Dominique Bourrel, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction quand elle oppose la douleur à la possibilité de la foi ? Ce qu'elle fait, elle en fait la seule objection et qu'en même temps, elle dit « il faut aimer Dieu à travers le mal qui se produit. Tant que nous aimons seulement à travers le bien, ça n'est pas Dieu que nous aimons et cette vertu rédemptrice de la douleur. »
Oui, c'est ça, ce problème, cet innocent qui souffre.
Vous avez peu de temps pour répondre à cette question abyssale.
Cet innocent qui souffre quand c'est le Christ, c'est de la bonne théologie catholique, quand c'est ou chrétienne, mais quand c'est un enfant, c'est insupportable. Quand c'est un enfant juif, c'est odieux. Et le sang sur la neige, ça, c'est la part janséniste.
Elle reprend à son compte, d'ailleurs, l'argument de Karamazov, hein, voilà. Qui dit la douleur d'un enfant, les larmes d'un enfant, hein, comme objection de principe.
Quant au sang sur la neige, le jansénisme, le piétisme, il y a un côté stigmatisé comme ça. C'est souvent quelque chose qu'on lit justement chez les philosophes. A desert road from Vegas to nowhere. Someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. In a little cafe just around the bend.
Avant de vous remercier, Florence de Lucie et Dominique Bourrel, je voudrais rappeler juste une chose, c'est que le texte hier que vous avez entendu, lu par la mère de Simone Veil, est un poème de Simone Veil qui se trouve dans le livre « Poèmes » suivi de « Venise sauvée » et de la lettre de Paul Valéry qu'on trouve chez Gallimard dans la collection « Espoir » fondée par Albert Camus. Florence de Lucie, vous êtes notamment responsable du volume quarto consacré à l'œuvre de Simone Veil et vous avez dirigé avec André Deveau l'édition des œuvres complètes de Simone Veil en 7 volumes. Bravo. Non. Chez Gallimard. Non, vous contestez ça?
Il y a 16 volumes.
16, j'ai noté 7, excusez-moi.
Il y en a 16 et on en a publié 9, on va publier le 10e.
Autant pour moi, autant pour vous.
Tout le temps
vous
faux.
Par ailleurs, vous venez de publier tout le temps faux, c'est vous qui l'avez dit. Vous venez de publier par ailleurs, dites-moi si j'ai tort, Simone Veil, Sagesse et Grâce violente, paru chez Bayard, sous votre direction. Et Dominique Bourrel, vous êtes directeur de recherche au CNRS, j'ai raison ?
Absolument.
Bon, d'accord. Tout va bien. Et vous êtes également l'auteur d'une biographie remarquable de Moses Mendelssohn chez Gallimard. Demain, suite et fin de cette semaine sur Simone Veil, on parlera d'enracinement avec Sylvie Courtine-Denamy et Martin Stephens. À la lecture des textes, un grand merci à elle, Anne Brissier. À la technique aujourd'hui, Jean-Frédéric. À la réalisation, Nathalie Salles. Et évidemment, assistants et collaboration de Geneviève Méric, Adèle Van Rett, Tristan Grenacia, Laetitia Cordonnier et Jennifer Murzo.